Silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.redem.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. Oh, je trouve ta voix bien grave aujourd'hui. Toute grave, très jolie. Dis-moi, tu es en forme, ça va ?
Oui, ça va bien et toi ?
Oui, ma foi, oh, bah, dis, on retrouve nos auditeurs, on est trop contents là quand même, on le sait bien, hein. Mais bon, bon, par contre, je vais commencer quand même par un petit truc. Bon, on en a entendu parler pendant plusieurs jours. C'est un peu triste. En même temps, bon, il s'agit de... Évidemment, je parle de Jean-Paul Belmondo, tu t'en doutes. Jean-Paul Belmondo, titré, mort d'un magnifique... Voilà, acteur et cascadeur. Hein. Jean-Paul Belmondo, il s'est éteint donc le lundi 6 septembre 2021 à Paris. Il avait 88 ans. Voilà, puisqu'il est né en 1933, en avril 33. 88 ans. Bon, on peut se dire quand même, comme ça au départ, qu'il a eu une très très belle vie, je pense. Bon, c'était un homme heureux, sympathique, jovial, parce que sa vie était quand même telle qu'il l'avait choisie. Mais il n'empêche qu'on aurait aimé qu'il reste encore. Bon, bah c'est comme ça. Alors, en fait, Jean-Paul Belmondo, il a imposé un physique. Une attitude dans le cinéma français. C'est une icône de la nouvelle vague, d'abord. Et puis après, il a été clown, et puis casse-cou, et puis flic téméraire. Bébel, acteur en perpétuel mouvement, immensément aimé du public. Alors, ce qu'il a apporté, Jean-Paul Belmondo, au cinéma, c'est inestimable. Il a apporté la décontraction. Ah ouais. Ça ne s'invente pas, ce truc-là. La décontraction, souplesse, vivacité, bon jeu de jambes, bon crochet. Il est à la fois danseur et boxeur. Voilà comment on le voit. Hein. Il a d'ailleurs songé à la boxe à une époque. Hein. Son héros, en 1948, bah, c'était Marcel Cerdan. Et oui, et Marcel Cerdan est devenu champion du monde, on s'en souvient quand même, le 21 septembre 1948, oui, champion du monde de boxe. Malheureusement, bon, il est décédé très jeune, à 33 ans, dans un accident d'avion. Mais bon, n'empêche que le lendemain du championnat, le lendemain de la victoire de Marcel Cerdan, ben Jean-Paul Belmondo, il avait 15 ans et il s'est inscrit dans un club de boxe qui se trouvait à la porte de Saint-Martin. Il s'est bien débrouillé au début, voilà, il a remporté quelques victoires, mais il a finalement raccroché les gants parce que ben, ce n'était pas son monde en fait. Voilà. Alors, ses parents, vite fait, il adorait ses parents absolument. Son père, Paul Belmondo, qui était un sculpteur, il est décédé lui en 1982, il avait 84 ans. Et sa maman, Madeleine, elle était artiste peintre. Et elle est décédée en 1997, elle avait 96 ans. Et comme vraiment, il avait une admiration pour son père absolument... extraordinaire, et il adorait sa mère, et d'ailleurs sa mère est devenue aveugle les dernières années de sa vie, et on dit que Jean-Paul Belmondo allait tous les jours la voir et lui lisait les articles des journaux. C'est bon, voilà, bah ça tout de suite on voit à qui on a affaire quand même là, finalement. Et puis à partir de 1980, bah, il est devenu un peu moins présent au cinéma, voilà, et là à ce moment-là il s'est produit au théâtre. Et, ah oui, alors on va voir, bon, cependant, en 1989, effectivement, j'ai noté qu'il a obtenu le César du meilleur acteur pour son rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch, et il a refusé le prix. En fait, il ne l'a pas refusé parce qu'il n'était pas content, c'est parce que cette statue de César, il a toujours voulu, voilà, il aurait voulu que ce soit son père qui sculpte qui sculpte le modèle du César, quoi. Que ce soit le... Bon, voilà, c'était ça sa petite tristesse. Voilà pourquoi il n'y est pas allé, mais il était probablement content quand même, hein, on imagine. Puis au début des années 2000, ben, il a eu des problèmes de santé qui l'ont éloigné du cinéma et puis des planches également. On peut accepter un film qui est sorti en janvier 2009. C'était Un homme et son chien de Francis Huster. Alors Un homme et son chien, bon ben voilà, il était avec Jean Dujardin, José Garcia. Il y avait Bruno Locher, il y avait Pierre Mondy, d'excellents acteurs. Mais le film n'a pas eu l'accueil souhaité, en fait, quand même. Mais il était dedans et lui, évidemment, il s'en est sorti comme d'habitude. On le voit beaucoup. Voilà, c'est lui, quoi. Il y avait aussi son ami Charles Gérard, son très, très grand ami qui ne l'a jamais quitté, qui est décédé en 2019. Il avait 96 ans. Et on dit que Jean-Paul Belmondo a eu beaucoup de chagrin et qu'il a eu du mal à se remettre de ce décès, justement, de son grand ami Charles Gérard. Ça a peut-être joué aussi au niveau de sa santé, ça. Puis, alors, bon, il a commencé, en fait, en 52, en 1952. Il est admis au conservatoire. Et oui, et en juillet 1956... Il passe le concours de sortie et c'est son audition de sortie et il n'a pas de prix, il ne reçoit pas de prix, il a juste un accessite, c'est-à-dire rien du tout, de la part du jury. Mais en fait, sa prestation plaît tellement qu'il est ovationné par le public et que ses camarades le portent en triomphe. Et à ce moment-là, Jean-Paul Belmondo, au moment de repartir, porté en triomphe, ben, comment on peut dire ça ? C'est ponctué par un bras d'honneur. Il ponctue sa sortie, voilà, par un bras d'honneur. En tout cas, c'est son premier triomphe public. Ouais, ce triomphe-là. Alors, ben, ce qu'il aime, lui, on l'a dit, c'est le mouvement, la légèreté. Il aime bondir, il aime exprimer, il aime porter l'estocade. Il adorait, par exemple, Errol Flynn, qui est un grand acteur comme ça aussi, qui était très bondissant. Donc, ça lui ressemble, ça. Voilà, ça ressemblait un peu à ce que faisait Errol Flynn. Et puis, il adorait aussi, vraiment, il avait beaucoup, beaucoup d'admiration pour Fernandel et Michel Simon, Jean-Paul Belmondo. Beaucoup, il pensait souvent à eux dans ses jeux, justement, dans sa façon de se comporter. Voilà, donc il a eu ses débuts, c'était quand même la nouvelle vague, c'était des films d'auteur plutôt, hein, parce qu'à bout de souffle, hein, 1960, Jean-Luc Godard avec Gene Serberg, en 65, c'était Pierre Houlfou. Avec Anna Karina de Jean-Luc Godard également. Il y a eu Le voleur en 1966 de Louis Malle avec Geneviève Bujold. Il y a eu La sirène du Mississippi en 68 de François Truffaut avec Catherine Deneuve. Voilà. Et puis voilà, c'était des films d'auteur. Il est formidable là-dedans. D'ailleurs, à bout de souffle, on se demande si c'est pas tout compte fait son meilleur film finalement, toute sa filmographie. En tout cas, il est splendide là-dedans et c'est là qu'on voit arriver tout d'un coup un acteur en liberté. Extraordinaire. Voilà. Et là, du coup, bon, ben, voilà, il a un petit peu changé de... Il a changé un petit peu de direction. Je pense qu'en fait, c'est parce qu'il a... C'est Stravinsky, le film Stravinsky a été un échec commercial. Et c'est à la suite de cet échec qu'il a préféré changer de registre. Voilà. Alors, il est devenu le caïd loyal, le flic téméraire ou le bandit au grand cœur. Et il devient, à ce moment-là, Bébel. C'est là qu'il devient Bébel. Il y a Peur sur la ville, 1975, premier rôle de flic. Le film est d'Henri Verneuil avec Léa Massari, Charles Denner. Après Stavisky, au fait, c'était en 1974. Et c'est cet échec qui lui a fait accepter Peur sur la ville, son premier rôle de flic. Stavisky, c'était Alain René, hein, le film avec Annie Dupéré. Dommage. En tout cas, là, on a un changement d'époque. Et de 1974 à 1985, il est le roi du monde. C'est sûr, 5 millions de spectateurs en moyenne par film. Et d'ailleurs, désormais, il a une maison de production qui s'appelle Cerito Film, voilà, qui produit ses films. Alors, dans ces années-là, c'est marrant parce qu'effectivement, on disait pas « je vais au cinéma », on disait « je vais voir le dernier Belmondo ». Voilà, c'était ça que les gens se disaient. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était lui qui comptait, et le cinéaste beaucoup moins. On disait « je vais voir le dernier Belmondo ». On parlait moins du réalisateur. C'était quelque chose d'assez fabuleux. En tout cas, là, après, Il a fait donc du théâtre, hein. Il s'est lancé dans le théâtre. Ça a été prodigieux, hein, ce qu'il a fait au théâtre. Il y avait Keane, il y a eu Cyrano de Bergerac. Enfin bref, un gros, gros, gros succès. Et au théâtre, ce Belmondo-là, ben, il avait le sens de l'apostrophe et de la rupture, le plaisir de la déclamation avant le grand saut. Ce qui frappe aujourd'hui, en fait, c'est à quel point il portait le théâtre en lui. Un théâtre physique, un théâtre de l'action. Il l'a inoculé au cœur même de la nouvelle vague, pourtant peu théâtrale et plus tard dans ses cascades aussi. Se donner sans compter ni forcer, avec un brio élégant qui ne devait jamais paraître, il ne paraissait jamais ce travail qu'il y avait derrière. C'était léger comme ça. C'était ça, sa ligne de conduite. Et ça porte un nom, ça s'appelle le panache. Eh oui, Jean-Paul Belmondo avait du panache, beaucoup. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur lui, en tout cas. C'est un homme, il était jovial, sur les tournages, c'était l'homme des farces. Voilà, c'était un comédien intuitif, un ami généreux d'ailleurs, hein, parce qu'il n'a jamais quitté ses compagnons du conservatoire. Et même chaque fois qu'il a pu, on les a vus, on les a retrouvés dans ses films. Il ne les a jamais lâchés. Jamais.
C'est bien, la fidélité.
C'est beau. C'est très rare dans le milieu du cinéma, quand même. Hein. C'est très rare.
C'est pour ça que je pense qu'il y a autant de spectateurs et de Français qui sont touchés par sa disparition.
Ah, tout à fait.
Et qui le remercient pour tout ce qu'il a pu faire au niveau du cinéma et de son être.
Ben, je te dirais, Damien, je t'avoue que moi, j'ai pas mal de DVD de lui que je regarde régulièrement parce que ça me fait du bien. Parce que quand je vais pas bien, ça me détend, ça me fait du bien. Mais c'est vrai. Et je pense que je ne suis pas la seule. J'en ai parlé avec pas mal de gens. Je ne suis pas la seule, justement. Ça ne va pas bien, on met un DVD de Jean-Paul Belmondo.
Voilà, pour l'hommage à Bébel. Et malgré tout, des films sortent au cinéma cette semaine.
Bien sûr, bien sûr.
Et on va commencer avec un film d'animation qui s'appelle Mouche Mouche et le petit monde de la forêt. Mouche Mouche comme mushroom, comme le champignon.
Oui, Mouche Mouche et le petit monde de la forêt. Oui, c'est mignon comme tout, c'est une animation française, hein. C'est pour la famille. D'ailleurs, c'est à partir de 3 ans. Oh, je vois ma petite Naya qui va emmener son petit frère Léouen et ils vont aller voir Mouche Mouche, le petit monde de la forêt. Oui, ce sont des champignons, effectivement. Et c'est de Joëri Christianen, parce que c'est un réalisateur scénariste belge, donc il ne faut pas oublier le N à la fin, E-N à la fin, Joëri Christianen. Et c'est un réalisateur scénariste. Il a d'ailleurs, ce réalisateur a rejoint l'équipe des Triplettes de Belleville. Voilà, en tant que lead animateur, c'est l'animateur principal, hein. C'est ce que ça veut dire, lead animateur. Et puis en 2007, il a créé le concept de Plankton Invasion. Alors je ne sais pas si tu connais cette série télévisée, Damien, mais chérie, je ne sais pas si vous la connaissez. Une série d'animation, il a réalisé la web-série, l'adaptation à la télévision pour Canal+. Hein. C'est une équipe de 3 planctons qui est envoyé sur la terre ferme pour rétablir la suprématie de leur espèce par tous les moyens. C'est une série bio. C'est tout à fait dans l'air du temps. Hein. Les planctons qui essaient un peu de sauver leur congénère, de sauver ça, le plancton dont on a absolument besoin et qu'on est en train de bousiller. Voilà. Donc c'est Plankton Invasion, ça s'appelle. Si vous trouvez les DVD, on les trouve, hein, pas cher du tout. Pour les enfants, c'est assez intéressant quand même. Alors, ce sont des champignons tout mignons, tout mignons. Moi, c'est un petit coup de cœur pour ces petits personnages parce qu'ils sont très attachants. Parce qu'on nous dit, si vous pensez tout savoir du petit monde de la forêt, ce que vous ne connaissez pas encore, Mouche Mouche, Lilith et Sep, chaque jour, le trio, vous ne les connaissez pas, voilà, c'est pour ça que vous ne connaissez pas la forêt. Il faut les rencontrer chaque jour. Le trio des inséparables champotes est entraîné dans de nouvelles aventures. Sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s'envoler à dos de libellules. C'est une journée palpitante qui s'annonce. Très, très jolie. Ça dure 44 minutes. Et c'est vraiment... Alors, ils ont tous un don particulier, ces champotes. Lily, par exemple, elle... Lilith. Il y a un T au bout, quand même. Hein. Lilith. Elle peut illuminer l'obscurité. Sep, lui, il a une mémoire fantastique. Alors que ses amis maîtrisent parfaitement le leur, Mouche Mouche ne sait pas à quoi peut bien servir son don à lui. au cœur de la forêt profonde, il va pouvoir découvrir quel est son talent. On ne va pas le dire, il faut aller voir le film. Et puis pour la rainette, ben voilà, c'est une rainette qui est sans abri. Alors il lui rend visite, c'est une rainette des bois. Alors Mouche-Mouche et ses amis découvrent qu'elle a été chassée de son arbre par un lézard. Pardon. Lilith décide alors de ramener la rainette chez eux, à Sèvres-les-Pins, sans soupçonner le remue-ménage que cette idée va provoquer. Voilà. Alors Mouche-Mouche, ben, il fait un tas de choses, lui. Hein. Il décide de gravir la face nord du mont Moussu. Ah, le mont Moussu, c'est quelque chose quand même. Hein. Mais c'est sans compter les projets de Sep, qui a prévu de donner un coup de pouce aux abeilles alors qu'elles pollinisent les fleurs de la prairie. Mouche-Mouche aura-t-il la patience de remplir cette tâche délicate avant de se lancer dans de nouvelles aventures? On voit que c'est quelque chose quand même, c'est très beau et ça apporte beaucoup. Je pense que c'est pareil, quoi. C'est le genre de film qu'on devrait passer dans les écoles maternelles, les écoles primaires, pourquoi pas les collèges aussi, pour apprendre, voilà, pour voir un peu ce que c'est quand chaque fois qu'on abîme la nature, qu'on la bousille, hein, bah chaque fois le mal qu'on peut faire. Eh oui. Alors, c'est quoi son... Oh, si, le don de Mouche-Mouche, on va quand même le dire. Hein. Il peut communiquer avec la nature et pressentir le danger. Enfin, quand ça fonctionne. Hein, bon. C'est comme tous les dons. Hein, de quelquefois, ça fonctionne un peu moins. Voilà. Et voilà, et ces trois amis font des choses extraordinaires. Ce sont vraiment des personnages qui sont très attachants. Dès qu'on les regarde, voilà, on les trouve... on a envie de s'intéresser à eux.
Mouche-Mouche et le petit monde de la forêt. Ouais. On écoute la bande-annonce pour se mettre dans l'univers de la forêt.
Prêt, les copains ?
Découvrez le monde merveilleux des champignons.
Hello.
Rencontrez Sep.
Je sais.
Lilith.
Ouais.
Et Mouche-Mouche.
Yeah.
Allez, détends-toi et apprécie le miracle de la nature.
Action !
Sep, t'es un génie.
Ouais, je sais.
Ton don permet à la forêt de te dire ce dont elle a besoin.
Ah, ok.
Vivez avec eux d'incroyables aventures.
Nom d'un compost.
Cet endroit est trop bizarre.
Direction la forêt profonde.
Mouche-Mouche.
Raté.
Pourquoi ce chant plus grand n'écoute-t-il jamais ce qu'on lui dit?
Pas parce que c'est Mouche-Mouche.
Mouche-Mouche et le petit monde de la forêt.
À retrouver au cinéma aujourd'hui même. Et nous allons maintenant poursuivre avec une comédie française, film de Laurent Lafitte, avec Laurent Lafitte lui-même, également Vincent McCain. Ça s'appelle L'Origine du Monde.
L'Origine du Monde, c'est son premier long métrage, hein, à Laurent Lafitte. Comme réalisateur, et oui, il est adaptateur, il a collaboré aussi au scénario. C'est un acteur, bien sûr, on le connaît, français, il a 48 ans, 25 ans de carrière, 55 tournages à son actif. Et là, son premier long métrage, il y a deux nominations, une au Festival de Cannes 2020, label Les Comédies, et une au Festival du film francophone d'Angoulême 2021, dans la catégorie avant-première. Ça dure 1h38, c'est l'histoire de Jean-Louis, qui réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, il se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire, Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margot, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connecté aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime. Point de suspension. Et alors là, on a dans les rôles, alors on a, c'est un joli casting, on a Karine Viard, on a Hélène Vincent, Vincent McCain, tu l'as nommé. Elle, Hélène Vincent, elle joue la mère de Jean-Louis, c'est Brigitte. On a Laurent Lafitte, tu l'as dit aussi, qui est pensionnaire de la Comédie Française, je rappelle, voilà, qui joue le rôle de Jean-Louis. On a Pauline Clément, Lucas Malinowski, Christine Beauvallet, et on a une participation très agréable de Nicole Garcia, qu'on aime beaucoup, on est très content de la revoir, là. Voilà, il a découvert donc, en fait, il a découvert, lui, Laurent Lafitte, la pièce de théâtre du même nom de Sébastien Thierry, qui est sortie en 2013. Il avait beaucoup ri pendant la représentation. Et puis ensuite, un deuxième niveau de lecture plus grave, centré sur des questions comme le poids du secret dans la famille et la manière de s'émanciper quand on a grandi dans le mensonge. Bon, bah là, il a senti qu'il fallait qu'il réalise son premier film. Voilà, c'est quand même... ce sont des thèmes qui le touchent infiniment, c'est ce qu'il nous dit en tout cas. Voilà. Il a gardé des pans entiers hein, de la pièce, mais il les a allégés, hein, comme, voilà, parce que le théâtre est plus bavard quand même que le cinéma. Donc voilà, il tenait à s'éloigner au maximum des mots d'auteur. Voilà, pour son film, au cinéma, la réplique drôle me fait moins rire qu'une situation. Oui, c'est vrai qu'au cinéma, on est plus dans la situation que dans la parole, en fait, souvent. D'ailleurs, c'est ce qu'adoptait d'ailleurs Louis de Funès. Il adoptait beaucoup dans les mouvements, lui, dans tout ce qui était grimace, mouvement et machin, plus que dans les mots. Voilà l'origine du monde.
Et on écoute la bande-annonce, ça vaut le coup.
Merci, oui, elle est
non,
très
je me
chouette.
Non, je ne sens pas bien. Écoute mon cœur.
Je t'écoute.
Non, écoute mon cœur.
Ah, oui.
Alors, qu'est-ce qui m'arrive ?
Je comprends rien.
C'est ahurissant. Ton cœur ne bat plus.
Mais c'est grave.
Disons que quand on est mort, c'est pas grave. Mais étant donné que t'as l'air vivant, c'est préoccupant. Je vais te réanimer.
Je suis animé ?
Je préfère te briser de haut de ma côte que te regarder mourir.
Je t'emmène à l'hosto.
Qu'est-ce qu'ils vont me faire à l'hôpital ?
Ils vont te plonger dans un coma artificiel.
Pourquoi faire ?
Pour que tu ressuscites.
Tu peux dire un truc normal, s'il te plaît ?
Enfin, c'est ce truc qui est pas normal. T'arrêtes pas de bouger, de hurler que t'es mort. Tu trouves ça normal, toi ?
Je suis pas mort, putain, je suis pas mort !
Je vois bien que t'es pas mort ! M'engueule pas, je comprends rien, là !
L'origine du monde, donc. Et Vincent Lafitte, je trouve là, personnellement, que...
Laurent.
Non, Vincent McCain.
Ah, Vincent McCain, d'accord. Ah,
ouais. Il ressemble particulièrement à François Hollande.
Ah, mais...
dans ce film, il a vraiment le physique.
Mais il est extraordinaire, c'est un grand acteur quand même. Hein,
c'est ça, très polyvalent.
Ah, ouais. Ah oui, mais il peut faire n'importe quoi, lui. N'importe quel rôle.
C'est ça.
Ah oui, bah, c'est peut-être ça le talent, justement.
Et nous allons maintenant poursuivre avec un film de science-fiction, film tant attendu, qui s'appelle Dune. Réalisé par Denis Villeneuve.
Oui, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière, que c'était un film très attendu. Effectivement, Denis Villeneuve, ben, c'est un réalisateur, scénariste, producteur délégué. Voilà, il est canadien. Hein. C'est un film canadien, en fait, ce Dune. Il a 53 ans, 26 ans de carrière, 18 tournages à son actif, 2 prix et 49 nominations aussi. Et puis, ben, on lui doit, par exemple, en 2017, Blade Runner. Je pense que beaucoup l'ont vu, Blade Runner 2049. Bon, ceux qui aiment ce genre de cinéma l'ont certainement vu. Thriller, science-fiction, voilà. C'était Ryan Gosling, quand même, et Harrison Ford dans les rôles principaux. Puis en 2016 aussi, on lui doit... D'ailleurs, Blade Runner 2049 a eu 3 prix et 8 nominations, quand même. 2016, c'était le premier contact, le titre science-fiction, avec Forest Whitaker, Amy Adams aussi, qui a eu 3 prix et 22 nominations. Donc, Denis Villeneuve est habitué, ça marche bien pour lui. Alors, le premier, il y a eu quand même le premier, qui est sorti en 1984, février, je crois. C'était David Lynch qui l'avait réalisé, et qui est un grand réalisateur américain, qui a 75 ans. Voilà, c'était la saga du premier intergalactique Paul Atréide et de son ascension messianique pour conduire son peuple et pour lutter pour sa survie, la survie du peuple. Voilà. Donc c'était Kyle MacLachlan qui avait le rôle et qui a beaucoup marqué dans ce rôle. Chaque fois qu'on l'a revu, cet acteur, on pensait à Paul Atréide. Voilà. Et là, cette fois, ben voilà, on arrive, c'est moderne, évidemment, hein, 2021. Ça dure 2h36, c'est de la science-fiction. Bon, pardon, c'est de la science-fiction du drame, c'est américain. Et puis, il y a 2 nominations, Festival du cinéma américain de Deauville en 2021. pour les premières hors compétition. Et il a aussi une nomination à la Mostra de Venise, long métrage hors compétition. C'est l'histoire donc de Paul Atreides, c'est toujours lui. Ce n'est plus le même acteur, mais c'est toujours le même personnage. Jeune homme, aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. C'est la fameuse épice hein, dont on parle dans le premier d'ailleurs, dont on parlait déjà. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. Alors le rôle de Paul Atreides est joué par Timothée Chalamet. Moi je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, il est pas mal dans son rôle. C'est un jeune américain, un acteur américain, il a 25 ans. On a également Rebecca Ferguson qui joue Lady Jessica Atreides, qui est une actrice suédoise elle. On a Oscar Isaac qui joue le rôle de le Duke Leto Atreides. C'est un acteur américano-guatémaltèque, cet Oscar Isaac. On a Josh Brolin également, acteur américain. Charlotte Rampling, on est content de la revoir, Charlotte Rampling, qui est une actrice britannique, mais qui tourne beaucoup en France, qui a tourné beaucoup en France. On a Stephen Anderson aussi. Jason Momoa, ah oui, Jason Momoa, il joue le rôle de Duncan Idaho. On l'a vu, c'est un acteur américain qu'on a vu dans Aquaman, qui est sorti en 2018, dont on avait parlé ici à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers. Et puis on a Stellan Skarsgård. Alors lui, il joue le baron Harkonnen. C'est un acteur suédois qui s'en sortait très bien aussi dans le rôle comment ça s'appelle le Jeanne, j'ai oublié le nom du héros de la jungle.
Tarzan.
Merci. Tu vois, je me souvenais de Jeanne. Oh là, ça c'est égoïste de se souvenir que de la dame. Tarzan et Jeanne, oui. Donc on se souvient de lui. Et il y a Javier Bardem aussi, qui joue Stilgar, qui est un acteur espagnol. Celui, alors là, on peut le dire, parce que tout le monde le sait, il est en couple avec Penélope Cruz, quand même, depuis quelques années. Et c'est quand même, dans ce film, c'est quand même, on se rend compte qu'il a accepté ce rôle, et c'est quand même un des plus grands acteurs actuels hein, du monde, hein, considéré comme ça en tout cas. Javier Bardem. Voilà. Donc ce film, bon, le casting est vraiment assez extraordinaire quand même. Hein, ça tombe très très bien. Alors c'est pareil, hein, Denis Villeneuve, un peu comme on le dit pour certains réalisateurs, il a découvert le roman lorsqu'il était adolescent. Voilà. Et il a été fasciné par sa poésie et son propos sur la nature. Il était étudiant en sciences à l'époque. Voilà. Il ne savait pas s'il allait devenir biologiste ou réalisateur. Il se posait la question. Du coup, d'avoir lu ce roman, eh ben voilà, ça l'a poussé vers le cinéma. C'est ça le voilà. Et compte tenu de la complexité du roman, eh oui, Denis Villeneuve a fait le choix de l'adapter en deux films. Il y aura une suite. Ça c'est le premier. On aura une suite. Voilà. À noter quand même que Dune est le troisième film de science-fiction du réalisateur. Ben, je l'ai dit, hein, il y avait Premier Contact et Blade Runner. Voilà. Donc il est fan de tous ces romans là, en fait, qu'il a lus avant de réaliser tous ces films. C'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Bon ben, je pense que là, de toute façon, je pense que ça va marcher, qu'il va y avoir énormément de spectateurs.
Dune, donc, au cinéma, version de Denis Villeneuve, voilà. 2021. Et on écoute la bande-annonce.
Voilà. L'auteur qui a créé cette œuvre s'appelle Frank Herbert.
Tout à fait.
Il est décédé en 1986.
Ma planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Les étrangers ravagent nos terres sous nos yeux. Je n'ai toujours connu que leur cruauté envers mon peuple. Qu'adviendra-t-il de notre monde ?
Paul.
Hey,
Duncan, je peux te faire confiance?
Oui, toujours, tu le sais.
J'ai fait des rêves dernièrement. J'ai rêvé d'une fille sur Arrakis. Je ne sais pas ce que ça signifie.
Les rêves font de bonnes histoires. Mais le plus important se passe quand on est éveillé. Regarde-toi, t'as pris des muscles?
Tu crois?
Non.
Nous sommes la maison Atreides. Nul appel ne saurait rester sans réponse. Nulle confiance ne saurait être trahie.
Souris, Gurney.
C'est ce que je fais, monseigneur.
L'empereur nous demande d'apporter la paix sur Arrakis. La maison Atreides accepte!
Je te connais. Quelque chose s'éveille dans mon esprit.
Tu dois affronter tes peurs.
Viens avec moi.
Tu dois être prêt. T'as jamais rencontré les Harkonnen? Ils sont pas humains, ce sont des brutes sanguinaires!
Le fils du duc est trop clairvoyant.
Tu n'es à moi. Tuez-les tous.
Dieu du ciel.
Faites décoller tous nos appareils armés! En avant!
C'est une extermination en règle. Ils éliminent mes proches les uns après les autres.
On va se battre comme des lions.
Père, et si je n'étais pas l'avenir de la maison Atreides?
Eh bien, vous le saurez en allant voir Dune au cinéma dès aujourd'hui.
J'allais le dire.
Et maintenant, on continue dans un tout autre genre. C'est une comédie française qui s'appelle Pourri gâté, avec notamment Gérard Jugnot. C'est une comédie de Nicolas Cruche.
Oui, Nicolas Cruche. Oui, Pourri gâté, comédie française. Bah, Nicolas Cruche, c'est un réalisateur, scénariste, acteur français. Il a 59 ans, 28 ans de carrière, 19 tournages à son actif. Quand je parle du nombre de tournages, je veux dire tout ce qui est possible, c'est-à-dire ça peut être des téléfilms, ça peut être des séries, ça peut être comme acteur aussi, hein, des tournages réalisateurs, acteurs, etc. Ben lui, il en a 19, voilà. Ben, on avait vu en 2014 Prêt à tout, qui avait très bien marché d'ailleurs avec Max Boublil et Aïssa Maïga, voilà, qui avait une nomination à l'Alpe d'Huez d'ailleurs. Ça avait bien marché ça, Prêt à tout. Ou Prêt à tout, parce que c'est masculin. Et donc là, Pourri gâté, ben c'est une nomination quand même au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2021, dans la catégorie le label sélection officielle. D'ailleurs, le film fait partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez 2021. Ça dure 1h35. Mais c'est quoi cette histoire alors? Paresseux, capricieux, fêtard, les trois enfants de l'homme d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie à part dépenser l'argent que leur père a durement gagné. Lassés par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu'ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l'impensable, travailler. Alors tu l'as dit, on a Gérard Jugnot, ben, c'est lui le papa, Francis Bartek, hein, le papa très riche. Et puis on a, alors les enfants, on a Camille Lou, c'est Stella, on a Artus, c'est l'enfant Philippe. Enfin, l'enfant, ce sont des adultes, mais enfin bon. On a Luca Meliava, c'est l'enfant Alexandre. Et dans le film, on a également François Morel, Tom Leeb, Hichem Bougueraba, on a Geoffrey Verbruggen. Alors lui, c'est un acteur belge qui est dans ce film. On a Colette Kraff aussi, qu'on a vu. Alors Colette Kraff, on la connaît parce qu'on l'a vu. Enfin, mes chéris, si vous avez regardé un peu quelques épisodes de la série Clem, eh bien, on l'a vu dans plusieurs épisodes, justement, à la télévision, dans Clem, Colette Kraff. Alors voilà, donc c'est vrai que Pourri gâté, bon, bah, c'est une comédie sympathique, hein, c'est vraiment... Et puis peut-être que certains d'entre vous connaissent ça, sans avoir autant d'argent que cet homme d'affaires, mais en ayant quand même, tout ce qu'il faut pour vivre. Peut-être que vous avez des enfants aussi, voilà, adultes, qui font pas grand-chose, qui en profitent un peu, qui vivent encore chez papa, maman, etc., etc. c'est possible aussi. Alors, si vous allez voir ce film, vous verrez comment on peut faire. Mais bon, c'est quand même c'est une adaptation très, très libre du film américain à succès qui s'appelait Nosotros, Los Noblesse, de Gaz Alazraki, qui est un réalisateur mexicain très connu là-bas, et dans lequel donc un père décide de donner une leçon à ses enfants, et cette leçon va finalement se retourner contre lui. C'est-à-dire que voilà, le thème, c'est ce que nous dit Nicolas Cuche. Hein. Le thème m'a séduit d'abord parce que j'ai trois enfants, mais parce qu'il évoque des problématiques actuelles concernant la transmission. Comment donner le goût de l'effort et du travail à des jeunes qui ont peut-être, grâce à leurs parents, une vie plus facile ? Comment faire face aux tentations des marques de la mode et de la surconsommation ? Il m'a semblé que c'était une manière amusante et pertinente, en poussant loin le curseur de la comédie, de traiter des problèmes auxquels de nombreux parents peuvent être confrontés à divers degrés, bien sûr. C'est ce que je viens de vous dire, mes petits chéris. Voyez un peu chez vous comment ça se passe, ou c'est peut-être totalement différent. Effectivement, ben j'espère quand même. Voilà, donc c'est quand même... Alors, en fait, on ne va pas dire pourquoi ça se retourne contre lui, parce que c'est tout le film, ça. Mais effectivement, en fait, on peut même se dire que ses enfants, les enfants de cet homme d'affaires très riche, sont des victimes, finalement, sont plus des victimes qu'autre chose. C'est-à-dire que, voilà, dans l'éducation du père, il y a certainement eu des lacunes. Et bon, on s'en aperçoit quand on va regarder le film, à un moment donné, voilà. Mais on ne va pas dévoiler tout ça, bien sûr. Le moins possible.
Et on va écouter la bande-annonce qui vaut le coup aussi avec un grand Artus. Oui. Grand numéro d'Artus.
Oui, tout à fait.
Bonjour, papa. J'ai eu l'idée du siècle.
Encore ?
Chaussures à son pied. On emploie des gens qui vont porter les chaussures de nos clients. Tu connais des gens qui n'ont pas de pied ?
Je compte sur toi pour être à l'anniversaire de ta sœur.
Est-ce que quelqu'un aurait vu un jus de pamplemousse ?
Je suis désolée, mademoiselle.
Non, mais ça va, faut que je vous le note, parce que ça a l'air un peu compliqué pour vous, en fait.
C'est, je l'ai pourri et je devrais leur serrer la vis.
Est-ce que je pourrais avoir un petit jus ?
Avec une petite pointe de gingembre.
T'as vu la vie qu'ils mènent ? Faut que je leur donne une leçon.
Papa ! Police ! Les enfants ! Salut !
On n'a plus d'argent, ils veulent nous foutre en prison.
Pardon ?
On va où ?
Se cacher, à Marseille.
Qu'est-ce qu'on va faire, papa ?
Un truc que vous n'avez jamais fait de votre vie.
Réfléchir.
Travailler.
Pardon ?
C'est quoi vos diplômes ?
J'en ai pas de diplôme, parce que je suis quelqu'un d'autodidacte.
C'est payé combien ?
C'est 1200 euros.
C'est par semaine, c'est ça ?
Non, par jour.
Comme Francis Cabrel, il a appris la guitare tout seul, mais moi, c'est le business.
D'accord. Et dans ce cas, j'ai peut-être quelque chose pour vous.
Oh ! Mais il y a le véhicule de fonction, hein.
Et vous serez pas déçus.
Putain ! Je sais pas quoi faire !
Oui, t'as jamais été là.
Ah, vous avez manqué de rien.
Bah, si tu parles d'argent, non ?
C'est d'autres choses dont on avait besoin, papa.
Qu'est-ce que je donnerais pour voir ça ?
Ouais, pour ça, ça va le coup. Hein.
Je pense qu'on va beaucoup apprendre de cette expérience.
C'est inespéré ce qui se passe.
Non mais,
je te jure.
Dis-leur la vérité, Francis.
C'est sûr que c'est vraiment pour tes gosses que tu fais ça.
Le rire.
Donc voilà, Gérard Jugnot avec François Morel qui discutent à la fin.
Un rire un peu machiavélique, là.
Alors, après Pourri Gâté, on continue avec le film qui s'appelle Blue Bayou de Justin Chon.
Oui, Justin Chon, qui est un réalisateur, scénariste, acteur américain. Il a 40 ans, 15 ans de carrière, 24 tournages. Et sur ces 24 tournages, il y a 4 réalisations. Il en est à sa 4e réalisation. Donc ça se passe. Alors il a 8 nominations, bah oui, le dire quand même. Ça dure 1h58, bon, ça ok. 8 nominations au Festival du cinéma américain de Deauville, puis 7 nominations au Festival de Cannes 2021. Il a frôlé le César en fait, mais vraiment de très près. Blue Bayou, c'est un film qui a été présenté à la sélection Un certain regard du Festival de Cannes 2021. Et quand on a parlé du Festival de Cannes, Damien, je ne sais pas si tu te souviens, on a parlé de ça, des films qui avaient été présentés à Un certain regard. Donc il en faisait partie. C'est pour ça que je l'avais mis de côté quand même. Alors c'est l'histoire d'Antonio Leblanc, qui est d'origine américano-coréenne, qui a été adopté et qui a passé sa vie dans un petit village du Bayou de Louisiane. On rappelle ce que c'est qu'un Bayou ? Ben, en fait, c'est une étendue d'eau qui est formée par les anciens bras et les détours du Mississippi. Voilà ce que c'est le bayou. Et donc il a été élevé là. Aujourd'hui, marié à la femme de sa vie, Cathy, ils s'élèvent ensemble, Jessie, la fille de cette dernière, issue de son premier lit. Alors qu'il travaille dur pour offrir ce qu'il y a de meilleur à sa famille, il va devoir affronter les fantômes de son passé, en apprenant qu'il risque d'être expulsé du seul pays qu'il ait jamais considéré comme le sien. Alors on a Justin Chaun, c'est lui le réalisateur qui joue le rôle d'Antoine Leblanc. Ensuite Cathy, c'est Alicia Vikander. Alors Alicia Vikander, c'est une actrice suédoise. On a un acteur canadien également, Marc O'Brien, dans ce film. Une actrice franco-vietnamienne, oh là là, qu'on a déjà vue. On a déjà parlé d'elle, Lin Dan Pham. Elle est très, très célèbre, elle. On a aussi on a Geraldine Singer aussi, Emery Cohen, qui sont des acteurs américains. Donc, en fait, Lin Dan Phan, là, pour parler d'elle quand même, elle n'a pas hésité, parce que c'est une sacrée comédienne, à se raser la tête pour son rôle. Voilà, c'était pour elle la moindre des choses, c'est ce qu'elle dit, afin de rendre hommage au courage des malades condamnés. C'est vraiment des comédiens qui vont jusqu'au bout, quoi. Donc là, en fait, Blue Bayou, pour le réalisateur, ça évoque les enfants de Corée du Sud adoptés par les Américains, qui, une fois devenus adultes, sont expulsés des États-Unis et doivent retourner vers leur pays natal qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Et donc lui, Justin Chaun, se souvient qu'enfant à Los Angeles, je traînais avec des tas de gamins originaires de Corée qui avaient été adoptés et j'ai toujours senti une différence de taille entre leur parcours et le mien, moi qui suis née ici. C'est quelque chose de très américain et pourtant qu'on ne montre jamais au cinéma. Voilà, c'est un très très joli film, Blue Bayou, vraiment très très beau. Mes chéris, là, si vous êtes un peu sensible à ce genre de problèmes graves, c'est des problèmes terribles, ça. D'ailleurs, le film est un drame quand même. Eh bien, il est pour vous, ce film, Blue Bayou.
Blue Bayou de Justin Chaun. Maintenant, c'est un film de Charlotte Bourgeois-Taquet que tu nous proposes. Oui. Ça s'appelle Les Amours d'Anaïs, avec Anaïs de Moustier. Alors, est-ce qu'on parle des Amours d'Anaïs de Moustier ou le personnage d'Anaïs de Moustier s'appelle Anaïs par pur hasard?
Voilà, c'est la seconde hypothèse. C'est que, pas vraiment un pur hasard, mais ça a beaucoup plu à Charline Bourgeois-Taquet, la réalisatrice, qu'elle aime beaucoup, en plus, Anaïs de Moustier. Elle fait partie de ses actrices fétiches. Hein. Donc, ça tombait bien, c'était très bien. Mais c'est quand même l'histoire d'une autre Anaïs, parce qu'Anaïs de Moustier ne va pas parler de sa vie privée au cinéma, bien sûr. Et du coup, Damien sourit, mes chéris, parce que pour lui, c'était quand même une blague, évidemment. On n'a jamais pensé qu'Anaïs de Moustier allait parler de sa vie. Donc, Charline Bourgeois-Taquet, réalisatrice, scénariste, actrice française, elle a 35 ans, c'est son premier long métrage. Elle a 5 ans de carrière, 4 tournages à son actif et elle a 5 nominations, dont 2 d'ailleurs pour... elle avait eu 2 nominations. Elle avait réalisé un premier court-métrage qui a très très bien marché, Pauline asservie, justement avec Anaïs de Moustier et Sigrid Boisise dans les rôles principaux. C'était en 2018, elle avait déjà été couronnée pour ça. Et puis là, elle a 3 nominations pour Les Amours d'Anaïs. Une au Festival de Cannes 2021, une à la Semaine internationale de la critique 2021 et une au Festival du film francophone d'Angoulême. Des jolies nominations quand même, ça dure 1h38. C'est de la comédie, c'est de la romance, c'est français bien sûr. Et le film est présenté à la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes 2021. C'est ce qu'on a dit là avec sa nomination justement à la Semaine internationale de la critique. Anaïs a 30 ans et pas assez d'argent. Elle a un amoureux qu'elle n'est pas sûre d'aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie, qui plaît aussi à Anaïs. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'agite. Et c'est aussi l'histoire d'un grand désir. Alors, tu l'as dit, Anaïs de Moustier, qui a le rôle principal, bien sûr. On a Valeria Bruni Tedeschi aussi, qui joue le rôle d'Émilie, qui vit donc avec ce Daniel. Et puis Daniel, c'est Denis Podalydès, ce sociétaire de la Comédie française. On a dans les autres rôles, c'est un beau casting, hein. C'est un joli casting. C'est un joli film pour un beau casting. On a Bruno Todeschini qui joue le rôle du père d'Anaïs, François. Et puis Anne Canova qui joue la mère d'Anaïs. Puis on a Xavier Gueffi, on a Christophe Montenez, on a Grégoire Ostermann, on a Annie Mercier, Jean-Charles Cliché. Mais la plupart, on les connaît en fait, hein, même si on n'a pas toujours retenu le nom. Quand on les voit, on les reconnaît, si on est quand même un peu habitué au cinéma. C'est une merveille de comédie romantique. Voilà, c'est titré. Une merveille de comédie romantique. Mais oui, ah, un peu de romantisme, ça ne fait pas de mal quand même. Hein. Alors, pour la réalisatrice, elle nous disait que la trentaine, ça peut être une décennie très angoissante. Ah, mes chéris, pour ceux qui ont 30 ans, là, hein, voilà, hein, c'est pour vous, car elle se trouve... Cette décennie se trouve au carrefour d'une multitude de choix déterminants, encore plus pour une femme qui doit prendre en compte la question de la maternité. Voilà. Alors elle nous dit qu'elle a beaucoup de mal avec la figure un peu héroïsée de la femme moderne qui s'accomplirait dans un métier valorisant avec un compagnon idéal et des enfants formidables. Franchement, dit-elle, ça me paraît invraisemblable et complètement inatteignable. C'est, voilà, c'est en opposition avec cette image qu'elle a voulu dresser le portrait d'une jeune femme complexe, prise dans les difficultés matérielles et existentielles propres à son âge et à son temps. Alors rassurez-vous mes chéris, si vous avez la trentaine et que vous avez des petits soucis ou même des gros soucis, allez voir Les Amours d'Anaïs, vous verrez que tout ça peut s'arranger. 1h38.
Alors après on continue.
Oui.
Et on continue donc avec un film, lui, qui est proposé par Nadav Lapid.
Oui.
Ça s'appelle Le genou d'Ahed.
Nadav Lapid, on en avait parlé quand on a, au moment du Festival de Cannes, puisque lui, il faisait partie de la sélection des premières. Donc, c'est réalisateur, scénariste, monteur israélien. Il a 46 ans, 16 ans de carrière, 11 tournages à son actif, 2 prix, 16 nominations. Et là, il a un prix et 11 nominations pour Le genou d'Ahed au Festival de Cannes. Donc, c'est ça. C'était ça, le prix du jury pour Nadav Lapid. Voilà pourquoi je l'avais mis de côté. C'est un drame français, allemand, israélien d'1h49. Alors, Y, cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l'un de ses films. Il y rencontre... Yahalom. Yahalom, c'est une fonctionnaire du ministère de la Culture qui se jette désespérément. Et lui, Y, cinéaste, se jette désespérément dans 2 combats perdus. L'un contre la mort de la liberté dans son pays, l'autre contre la mort de sa mère. Alors là, on a dans les rôles, on a Avshalom Polak, qui est un acteur israélien. Il joue le rôle de Y, le cinéaste. On a Nour Fibak, qui est israélienne également, qui joue Yahalom, c'est-à-dire la fonctionnaire du ministère de la Culture. On a Yoram Onig, on a Lidor Edri, on a Nahama Preis, qui joue le rôle de la directrice de casting. Elle est israélienne. On a Jonathan Kugler, qui est un Israélien également, et qui joue le rôle de Y, cinéaste jeune. Voilà. Donc, on n'a que des acteurs israéliens, apparemment. Voilà. Alors, le Avshalom, là, Polak, celui qui joue le rôle d'Y, le cinéaste, c'est un acteur qui... Il est chorégraphe, cet acteur, dans la vie. Il vient d'une grande famille d'acteurs. Et plus jeune, il a connu beaucoup de succès avec une série. Et puis, voilà. Mais depuis 20 ans, en fait, il se focalise sur sa troupe de danse. Du coup, pour le rôle, ben, il a accepté, mais sa décision était un peu dramatique quand même, finalement. Après 20 ans, comme ça, c'était pas évident du tout. En tout cas, le film a été réalisé en 18 jours. Voilà. Le réalisateur était conscient qu'il serait difficile et risqué, même, de financer ce film en Israël. Dans une ambiance politique d'angoisse et de risque de censure, exposer un tel scénario à des comités de lecture pouvait compliquer son exécution. Il fallait donc aller tout droit, le plus vite possible, sans prendre de mesures de sécurité. Voilà ce qu'il nous dit en tout cas. On lui doit en 2019 Synonyme, au fait, hein, le film Synonyme. On en avait parlé ici à l'antenne de Synonyme avec Tom Mercier et Louise Chevillotte. Qui avait eu quand même l'ours d'or à la Berlinale 2019 et 6 nominations. Synonyme, très chouette, c'était très beau film. Le genou d'Ahed, 1h49, je ne sais pas si je l'avais dit. Très beau, très beau film.
Le genou d'Ahed. Oui. Alors, ensuite, ça, toujours dans la conversation autour du cinéma,
oui.
On va continuer avec un film de Carlos López Estrada qui s'appelle Summertime.
Summertime, en été. On est d'accord. Comédie, drame musical, c'est américain. Carlos López Estrada, oui, tu l'as dit, réalisateur, collaborateur. Il a collaboré au scénario, il est auteur également. C'est un Mexicain, il a 33 ans, 2 ans de carrière, 6 tournages. Il a déjà eu des nominations pour Blindspotting, par exemple, qui est sorti en octobre 2018. Meilleur réalisateur pour un premier film, etc. Bon, voilà, ça plaît ce qu'il fait, ça plaît beaucoup. Alors là, c'est quoi ? Ben, c'est les vies de 25 jeunes habitants de Los Angeles qui s'entrecroisent pendant une chaude journée d'été. Et dans les rôles, on a Tilda Swinton, on a Marquesha Babers, on a Maya Mayor, Austin Antoine. Il y a eu quand même pour ce film, dont les acteurs d'ailleurs, dont les gens qui jouent, 28 scénaristes. C'est-à-dire qu'il y en a 28 qui ont écrit, qui ont travaillé sur le scénario. Et il y a eu 2 collaborations au scénario, le réalisateur et Vero Compagli. C'est ce que je disais, qu'il avait collaboré au scénario justement. Alors il a le prix, Summertime a reçu... Pardon, le prix du public 2020 au Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Mérité, je pense. Voilà, c'est titré, vous ne verrez plus jamais Los Angeles de la même manière. Une sincérité qui remporte tout, captivant, une œuvre d'art, à couper le souffle, puissant, redonne confiance en l'avenir. Ça, c'est un film à mi-chemin entre un projet musical urbain et une expérience sociologique inédite. Le réalisateur a rencontré ces 25 jeunes artistes de Los Angeles et les a rencontrés lors d'un atelier d'ailleurs de spoken word. C'est une façon particulière d'oraliser un texte. Voilà. Donc on sait tout sur Summertime qui dure 1h35.
Et encore un film que tu nous proposes maintenant, oui. De Sofiane Mahmoudi, ça s'appelle Spirale.
Oui, ben, on va faire les deux en même temps, si ça ne t'ennuie pas. Il y a Spirale et puis il y a La Proie du Nombre, puisque ce sont les deux films, c'est drame, c'est du thriller, c'est aussi... Spirale, c'est plus le drame, mais il y a aussi quand même de l'épouvante un peu. Sofiane Mahmoudi, oui, réalisateur, producteur délégué, acteur, scénariste. Il est français, il a 32 ans, 9 ans de carrière et 6 tournages. En fait, c'est un film qui est interdit au moins de 12 ans. Hein. Ça, c'est important, il faut le dire. C'est l'histoire d'Alexander, un jeune auteur qui est tombé depuis quelques mois dans une spirale autodestructrice. Il est devenu dépendant de l'alcool et de la drogue. Une nuit, il est poignardé par des trafiquants et il manque de mourir. Pour sortir de ses addictions, il écrit le scénario d'un film, Spirale, proche de l'autofiction, où il jouerait le rôle principal de Daniel. Il rencontre un réalisateur, Olivier Reiner, qui l'admire, voilà, et qui accepte de réaliser le film et de faire passer des tests à Alexander. Tout en réécrivant le scénario et en y incorporant des éléments de la vie personnelle de l'acteur. Alexander, qui souhaite exorciser ses démons et atteindre sa libération, suivra Olivier sans condition dans une aventure fulgurante où réalité et fiction se confondent. C'est Spirale sans E, d'ailleurs, hein, le titre. Il n'y a pas de... un Spirale, ça dure 1h32. Et puis, alors un peu dans le même... c'est pareil, hein, interdit en moins de 12 ans, j'ai La Proie du Nombre. Tu avais ça, ce film ?
C'est un film de David Bruckner.
Voilà, c'est ça. Merci Damien, c'est David Bruckner, réalisateur, scénariste, auteur américain de 44 ans, il a 13 ans de carrière... 11 tournages à son actif, un prix et 10 nominations. Il a une nomination au Festival du cinéma américain de Deauville 2021 pour La Proie du Nombre dans la catégorie long-métrage compétition. Alors, c'est thriller, c'est fantastique. Il y a de l'épouvante, justement, c'est pour les amateurs, parce que c'est du bon cinéma d'épouvante. C'est pour ça que j'en parle. Ça dure 1h48. C'est déchiré par la mort brutale de son mari, Bess se retrouve seule dans la maison qu'il avait construite pour elle au bord du lac. Elle s'efforce de faire face, mais d'inexplicables cauchemars font leur apparition. Dans de troublantes visions, une présence insaisissable semble l'appeler. Contre l'avis de ses amis, Bess commence à fouiller dans les affaires de son mari en quête de réponses. Elle va découvrir des secrets aussi étranges qu'inquiétants et un mystère qu'elle va, malgré les risques, tenter d'élucider. On a Rebecca Hall dans le rôle de Bess. Elle est habituée à ce genre de cinéma, Rebecca Hall. Si on a vu déjà des films de ce genre, on l'a vu, elle, forcément. On a Sarah Goldberg, on a Evan Johnny Kate, on a, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, Vondi Curtis Hall, on a Andy Richter, Stacy Martin aussi. C'est titré profondément perturbant, un film qui laisse la raison s'égarer dans de dangereux ténèbres. La performance de Rebecca Hall est un vrai tour de force, à vous glacer le sang. c'est j'ai dit 1h48 je crois, hein. La proie du nombre.
Et tu voulais terminer pour aujourd'hui avec des documentaires.
Oui.
Documentaire L'affaire collective d'Alexander Nanot.
Oui, c'est un documentaire roumain et luxembourgeois. L'affaire collective d'Alexander Nanot, tu le dis, réalisateur, directeur de la photographie, producteur roumain. Il a 42 ans, 14 ans de carrière et 4 tournages à son actif. En fait, en 2020, l'affaire collective a remporté l'European Film Award du meilleur documentaire. Et en 2019, il avait été présenté à la Mostra de Venise et au Festival de Toronto. C'est un documentaire sans interview. Il n'y a pas d'interview des protagonistes. Il n'y a pas de voix off non plus dans ce documentaire. Et puis là, il a 3 nominations, dont 2 aux Oscars Academy Awards à Los Angeles. Pour l'Oscar du meilleur film étranger aussi. Et puis au BAFTA Awards Orange British Academy Film Awards en 2021, meilleur film documentaire. 1h49. Ben oui, c'est une histoire qui est vraie, évidemment, hein, comme tous les documentaires. Après un tragique incident au collectif club discothèque de Bucarest, le 30 octobre 2015, de nombreuses victimes meurent dans les hôpitaux des suites de blessures qui n'auraient pas dû mettre leur vie en danger. Suite au témoignage d'un médecin, une équipe de journalistes d'investigation de la Gazette des Sports passe à l'action afin de dénoncer la corruption massive du système de santé public. L'affaire collective suit ces journalistes, les lanceurs d'alerte et les responsables gouvernementaux impliqués. Elle jette un regard sans compromis sur la corruption et le prix à payer pour la vérité. Et puis j'avais mis de côté La ferme qui soigne. C'est tout à fait curieux, ça, La ferme qui soigne. C'est quand même... Tu l'avais, toi, ça, dans le... T'as la réalisatrice aussi.
Oui, Caroline Breton.
Très bien. C'est la 2, entre parenthèses. Un peu comme chez les Américains. Hein. Il y a le Caroline Breton 2, oui, réalisatrice française, hein, scénariste, metteur en scène. Voilà. Elle est en fait les rares... Pardon. Elle parle, le documentaire parle de Raphaël Colicci, qui compte parmi ceux qui ont connu un monde très différent. Il a façonné le domaine naturel dans les contreforts du Larzac. C'est un touche-à-tout, Raphaël Colicci, ostéopathe, paysan, agriculteur, passionné de fruits oubliés, formateur, conférencier. Voilà, il cultive des variétés anciennes de fruits et légumes qui ont du goût, qui sont résistantes au froid et qui ont peu besoin d'eau. Ça, c'est important, ça. Le fait qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, mais qui sont surtout riches en polyphénol et en antioxydants. L'antioxydant, ça empêche de vieillir, hein, mes chéris, on le rappelle ça quand même. De vraies bombes de santé pour l'homme avec un grand H. Il y a l'olive, le kaki, le souché, l'asmine, la grenade, le chardon, Marie, voilà, l'artémisia aussi. Voilà. Faut noter tout ça après tout. Les fruits oubliés sont incroyables, alicaments, des aliments, médicaments. Ça veut dire un alicament, c'est ça, hein, un aliment qui est aussi un médicament. Et ces fruits ont des vertus exceptionnelles. Bien se nourrir, c'est se soigner. Voilà. Voilà. Et alors, dans ce documentaire, il y a Edgar Morin qui est là, sociologue et philosophe. Il y a Père Rabhi, auteur, paysan et penseur. Il y a le professeur Henri Joyeux, cancérologue et chirurgien. Il y a Hans Jerker qui est un ingénieur forestier. Il y a Babette Colicci, qui est agrothérapeute, Sarah Poète, qui est naturopathe, amie proche de Raphaël Colicci, et qui partagent leur point de vue sur cette quête fondamentale. C'est un documentaire très, très exceptionnel, qui dure 1h18. Essayez de le choper quelque part. De toute façon, le DVD va sortir très rapidement, et je pense qu'on pourra se le procurer assez vite quand même. Hein. Voilà. Donc c'est quand même...
Et un tout dernier documentaire que tu nous proposes, oui. Ça s'appelle L'État du Texas contre Mélissa. Et c'est un film de Sabrina Van Tassel.
Oui, Sabrina Van Tassel, qui est une réalisatrice, coproductrice, actrice, journaliste, justement. Là, elle est journaliste dans ce documentaire. Elle a 46 ans, c'est une franco-américaine. 22 ans de carrière, 9 tournages. Et l'État du Texas contre Melissa, donc c'est un documentaire franco-américain. Elle a, qui a une nomination au Festival du cinéma américain de Deauville 2021, nommée dans la catégorie Les docs de l'oncle Sam. C'est bien ça, c'est une chouette catégorie pour les documentaires. Melissa Lucio est la première femme hispano-américaine condamnée à mort au Texas. Elle est accusée d'avoir tué sa fille de 2 ans. Cette mère pauvre et droguée coche toutes les cases de la coupable idéale. Pourtant, son histoire qui regorge de zones d'ombre va se révéler bien plus complexe qu'elle y paraît. Alors la réalisatrice l'a rencontrée, Melissa, lorsqu'elle réalisait un reportage aux États-Unis sur les femmes dans le couloir de la mort. Au début, l'affaire ne l'intéressait pas. Et puis finalement, au fur et à mesure, elle a vu dans les yeux de Melissa toute l'injustice du système judiciaire américain qui condamne les plus faibles pour s'en débarrasser. C'est pour cette principale raison que Sabrina Van Tassel a voulu enquêter et réaliser ce documentaire.
Très bien.
3 documentaires assez magnifiques quand même.
À proposer en plus d'une dizaine de films.
Tout à fait.
Merci Anne pour toutes ces informations, tous ces films, toutes ces sorties. Ce petit point rétrospectif par rapport à Jean-Paul Belmondo.
Oui.
Voilà une émission, une conversation autour du cinéma bien chargée aujourd'hui.
Mais c'était pour lui, c'était en hommage. J'avais envie qu'on présente, toi aussi d'ailleurs, qu'on présente cette émission en hommage pour Belmondo. Voilà, pour lui, pour Jean-Paul Belmondo. Bébel.
Et toi, on te retrouve mercredi prochain à 11h pour une nouvelle conversation
bien
autour
sûr.
Du cinéma. Et n'oubliez pas qu'il existe des podcasts de cette émission. Vous pourrez retrouver donc toutes les dernières
Tout
émissions avec les sorties proposées.
Bah, je te dis au revoir. Merci Damien pour
merci
ton soutien et tout ça. Et tes bandes annonces qui sont toujours un excellent support. Et puis à vous mes chéris, je vous souhaite une excellente semaine bien sûr. Prenez bien soin de vous, de votre entourage. Voilà, soyez bien heureux. Et puis n'oubliez surtout pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Yeux, tu sais.